Marc Menon et ses invités.
Ah, ça pose des questions, hein, les propos de nos invités. Nous sommes avec Grégory Gutiérrez. Il travaille à l'Institut Métapsychique. Je rappelle que cet institut a été créé à la fin du 19e siècle par de grands savants.
Au début du 20e, en 1919.
Ah, d'accord. Avec Flammarion, Richet et autres. Voilà. Que des gens comme Pierre et Marie Curie ont participé à certaines réunions.
Ils ont participé à des réunions avec des membres de l'Institut de temps à autre, mais ils n'ont pas participé à l'Institut
eux-mêmes. Non, mais il y avait des réunions où on essayait de tester les phénomènes parapsychiques.
Oui, au début du siècle, la métapsychique, comme on l'appelait alors, avait un statut autrement...
Autrement plus noble
que la parapsychologie aujourd'hui en France.
Oui, c'était un sujet d'étude pour l'élite, oui.
Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, l'élite s'en détourne.
Oui.
Mais oh boy, ils y reviennent.
Oui,
oui. J'ai quelques lettres ici de chercheurs du CNRS qui nous écoutent tous les dimanches matins, donc ça prouve que sous le manteau, ils sont curieux.
Ah, mais on a des gens du CNRS et autres qui sont intéressés, qui viennent nous voir à l'Institut.
Très bien. Ouais. Et Maxence Layet avec nous, journaliste indépendant, spécialisé dans les nouvelles technologies. Alors, le 11 septembre, ce choc, restons deux secondes sur l'hypothèse, est-ce qu'il y a la perception de ce qui arrive avant qu'il y ait la moindre manifestation du côté des terroristes, avant qu'ils ne se soient déclarés devant les passagers des avions dans lesquels ils se trouvent?
Là, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avant que l'événement se déclare sur toutes les télés et radios du monde, en tout cas, la courbe manifeste une anticipation, enfin ce qu'on peut appeler une anticipation, c'est-à-dire en fait avant que l'événement ait vraiment lieu médiatiquement parlant et soit donc consciemment perçu, que tout le monde en soit informé, la courbe manifeste un premier écart par rapport à ce que le hasard devrait produire. Et donc après, par rapport à ça, on peut effectivement imaginer que c'est soit les personnes impliquées au tout début de l'événement, terroristes et otages, qui commencent à entrer en résonance, ou en tout cas à émettre quelque chose, et c'est ce quelque chose-là qui pourrait être capté, mais bon, ça peut se discuter hein, comme proposition, ou effectivement on peut aussi prendre l'hypothèse que cet événement, qui va avoir des répercussions importantes, pourrait être donc pressenti par l'inconscient collectif.
Alors, dans cette notion d'inconscient collectif, parmi les nombreuses questions qui nous sont venues au 01 47 23 15 15 j'ai même plus le numéro de téléphone auquel on veut nous joindre. C'est pas grave, vous le savez, vous, c'est ça l'essentiel. Est-ce que les animaux qui sont entités vivantes peuvent participer à cette psyché global?
Grande question. Pour répondre à cette question, il faudrait répondre à une autre question.
Parce que là, Teilhard de Chardin, pour lui, c'était une évidence, c'était une hypothèse à l'époque, ô combien hardie, mais il estimait que tous les êtres
vivants influaient sur cette noosphère.
Voilà.
Mais pour répondre à la question que vous posez, il faudrait répondre d'abord à une autre question. Est-ce que les animaux ont une conscience de la même manière que les hommes ont une conscience?
Peut-être pas de la même manière, mais sans doute qu'ils ont une conscience. Sinon, l'animal qui se retrouve devant un lion, il se mettrait pas à courir s'il n'avait pas conscience de.
Oui, mais si j'agis en rationaliste, oui. Je vous dirais oui, mais c'est l'instinct chez l'animal, oui, alors que c'est l'intelligence chez l'homme qui fait qu'on va courir devant un lion, quoi.
Sauf que
la question n'est pas tranchée.
Les loups sont capables d'une stratégie pour capturer une proie. Alors il est difficile que ce soit uniquement l'instinct là aussi.
Ah oh, bah c'est un long débat.
On peut faire une émission.
C'est très intéressant d'ailleurs parce que ça pose des questions sur ce que c'est que l'intelligence humaine et animale et sur ce que c'est que le terme de conscience. Toute la parapsychologie, toute l'énigme de la parapsychologie, c'est pour ça que c'est une science, une discipline si controversée, qui a tellement de mal dans certains pays, notamment en France en ce moment, à percer, c'est que son champ d'étude finalement, c'est pas la télépathie, ni la voyance, ni autre chose, c'est les mécanismes de la conscience humaine.
Et de la pensée,
c'est ça.
Qu'est-ce que la pensée? Parce qu'on peut nous raconter ce que l'on veut, branchement des neurones, etc. Peut-être que la pensée est extérieure au cerveau.
Et c'est difficile avec les méthodes classiques, habituelles de la science, de pouvoir étudier la conscience, parce que c'est comme si vous demandiez comme si vous étiez bricoleur, et que l'engin que vous ayez à réparer avec votre tournevis, c'est justement votre tournevis. Comment vous allez faire pour utiliser l'outil que vous utilisez habituellement pour réfléchir sur cet outil.
Voilà. Non, mais on est d'accord. Moi, j'aime bien quand on se prend la tête comme ça. Et alors, autre question.
C'est le cas de le dire, on se prend la tête.
Oui, c'est bien. C'est sur un lieu comme Lourdes. Que pourrait-on jauger de la force, puisqu'il y a eu des groupes de prière qui ont été étudiés, des gens qui se rencontrent pour essayer d'influencer? Est-ce que là, les courbes ont une configuration différente de ce que l'on note dans, sur les autres événements?
Ben là, en l'occurrence, le plus simple serait de placer un egg à Lourdes et pourquoi pas de voir ce qui peut se produire ou ce qui peut être généré, tant localement que globalement, bien sûr, mais avant tout localement, au niveau des chiffres qui sont produits en situation quotidienne de procession ou de pèlerinage à Lourdes, et aussi en situation, pourquoi pas, de miracle et de propagation de cette information au niveau de tous les pèlerins qu'il peut y avoir sur Lourdes. Mais en fait, les travaux de Nelson et l'historique...
Il y en a eu quelques-uns sur la méditation, alors on pourrait avoir une extrapolation.
Effectivement, oui. Quand le dispositif a été sorti des labos et placé sur le terrain, des anomalies sont constatées au niveau dans l'analyse statistique des données produites par le petit module informatique. Donc, à chaque fois, ce qui est bien étudié, c'est l'être humain. Et donc, Nelson, dans ce projet plus global, il est à l'écoute d'une pensée consciente, ou en tout cas d'une pensée qui va être focalisée sur un même élément partagé par tout le monde.
Oui, mais c'est pour ça. Il y a d'un côté l'émotion. On est récepteur.
Oui.
C'est tout ce que l'on a évoqué comme drame. Ou comme événement heureux,
bien sûr,
la Coupe du Monde, etc., etc. Et puis après, il y a la force d'action de la conscience, je dirais presque sur l'inconscient. En l'occurrence, on se retrouve à un petit groupe, on médite, on a une volonté d'agir psychiquement.
Oui.
Alors,
et la volonté d'agir psychiquement n'est pas forcément sur le dispositif.
Non.
C'est vraiment, le dispositif n'est que le témoin passif d'une pensée cohérente, partagée, commune.
Voilà. Alors, est-ce que les courbes sont de la même configuration du côté émotionnel ou dans l'intention de penser? Est-ce que c'est pareil? Ou est-ce que ça se manifeste d'une autre manière?
À première vue, oui, c'est identique, puisqu'en fait, le capteur est passif. Donc, quelle que soit l'intention des personnes, si c'est une intention qui est partagée par un groupe, d'autant plus si le groupe est à l'échelle de la planète, le capteur pourrait, ou est censé en tout cas, il sert à établir ce fait-là, pourrait témoigner que quelque chose se passe en termes de pensée inconsciente ou inconsciente,
si vous voulez,
collective.
Au niveau du mécanisme lui-même, on va prendre une analogie rapide. Quand on est au lycée ou au collège, on nous apprend les bases de la physique et notamment du magnétisme. Pour ça, on prend de la limaille de fer qu'on jette de manière désordonnée sur une table et on pose un aimant assez fort à côté. Et d'un seul coup, les petits grains de limaille de fer s'ordonnent et dessine les champs de force de cet aimant.
La limaille, ils sont tous orientés dans
ils
le même sens.
Ils sont tous orientés dans le même sens. D'un seul coup, ils sont mis en rang. Il y a plus de hasard. Tout est ordonné. Eh ben, les aigles, c'est d'une certaine manière le même type de manifestation au moment où un grand nombre de personnes sont focalisées sur le même événement, que ce soit un choc émotionnel ou une méditation longue et intense, que ce soit quelque chose de volontaire ou quelque chose de subi. D'un seul coup, la limaille de fer de notre pensée s'organise.
On est vraiment dans la notion d'un thermomètre ou d'une mesure de température psychique.
Alors, pour aller plus loin, afin de tirer les informations primordiales et qui nous permettraient de comprendre s'il y a effectivement une sorte d'entité et d'incident, de lien entre les uns et les autres, il faudrait un groupe de prière d'un côté, dans une pièce plus loin, une personne qui, par exemple, serait malade, et le groupe de prière cherchant à influencer cette personne, sans qu'elle le sache éventuellement, et avec un capteur sur la personne.
Il y a eu mieux que ça. Il y a eu ces dernières années des expériences justement sur les groupes de prière.
Oui, mais
justement,
avec capteur ou pas capteur?
C'est très simple. On a demandé à des groupes de prière de prier pour un certain nombre de personnes qui étaient dans des hôpitaux, malades de cancer, par exemple. Ces personnes-là, dans les hôpitaux, n'étaient pas au courant qu'on priait pour elles. Et il y avait un groupe témoin de personnes qu'on a suivi aussi, de malades, pour qui personne ne priait. Les groupes de prière en question, ils avaient juste une photo des malades ou, parfois, dans d'autres expériences, simplement le numéro de leur dossier à l'hôpital. Ils ne savaient rien d'autre de ces personnes-là. On leur demandait juste prier pour que ces personnes-là, tous ces chiffres-là, ces personnes-là guérissent. Et il y a eu 3 ou 4 expériences ces dernières années sur ce principe-là, donc en double aveugle, on appelle ça, et qui montrent qu'effectivement, le groupe témoin guérit moins que le groupe pour lequel on a prié. Et le Global Consciousness Project permet de donner un cadre théorique pour expliquer les faits constatés.
Et moi, j'aimerais voir les courbes maintenant. Il faudrait tenter ça avec les courbes et donc les capteurs. Merci à tous les deux. Vous avez été passionnants. Il fallait être attentif pour suivre vos propos. Mais moi, je trouve que c'est normal parce que sinon, on est dans le badinage et ça n'a pas grand intérêt. Et nous nous retrouvons tous les dimanches matin pour avoir le plaisir de la réflexion. Nous étions avec Grégory Gutiérrez. Il travaille à l'Institut Métapsychique. Maxence Layet. Et on peut donner, juste pour conclure, c'est le projet, la Global Conscience Project.
L'adresse du site du Global Conscience Project, c'est noosphere.princeton.edu.
Très bien, voilà. Merci beaucoup. Vous écoutez Europe 1.